Okay. Hello. Welcome. Good evening. My name is Charmaine Lin. I am the director of the Office of Admissions, Equity, and Diversity in the Faculty of Medicine. Au nom de la Faculté de Médecine, nous vous souhaitons un très chaleureux bienvenue parmi nous ici à la Faculté. Nous sommes ravis de vous voir en grand nombre ce soir et aussi par le biais de notre site web, on a télédiffusé cette session d'information et nous avons à peu près une soixantaine, 75 personnes de je ne sais pas où, peut-être on pourrait faire un petit test. Par le biais de notre programme ici, les gens qui nous écoutent par le web, si vous pouvez nous indiquer d'où vous venez, ça serait intéressant de voir la représentation de notre audience ce soir. We are going to run this in a bilingual fashion tonight. There will not really be any translation of the information. We'll be doing some of it in English, some of it in French. Our expectation for you as candidates is that you are functional and able to comprehend what's going on in English and in French. So that's the expectation that we're holding you to for this information session. The slides are bilingual, so all of the information is available to you in both languages. And the slides will also be available to you on our website in the days following this event. Couple of housekeeping things. If you can turn off your phones, we would appreciate that very much. And because we have folks watching us on the live web stream, we would ask that for our question and answer period, which we would like to have at the end of the info session, so please reserve your questions till the end. If you do have questions, if you can use the aisle mics, that will allow people who are watching us à distance to hear your questions, so we won't have to repeat them for our audience members on the interweb. So if you are watching us from far away, this is how you would submit a question to us. There is the little arrow pointing to the ask button. That's how you submit the question, and then you actually fill your question in and hit submit feedback. We will test that. Have we got any questions? Or any...
Bonjour, Alexandra de Longueuil, puis Amélie de Sherbrooke.
All right. It's working. Great. Bon, une petite présentation de la Faculté de médecine. J'imagine que parmi cette groupe ici ce soir, vous êtes prête à embarquer dans le processus d'admission. Alors, c'est pas vraiment une présentation de recrutement. J'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà pris la décision. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous êtes vraiment prête à embarquer dans... Show of hands, are you ready to apply right now? Or do you need to be persuaded to apply? Who needs to be persuaded? Great. Okay. So you're all ready to apply. In case you needed some motivation, we do have a large and very impressive teaching hospital network that includes all of these hospitals and will, in the next couple of years, include the Glenn campus, which for students admitted in this cycle, hopefully it will line up, the final construction will line up with your clerkships. So this would be where you would be doing your clerkship training. An important message that I think you all need to understand about the Office of Admissions, Equity, and Diversity is our understanding of the recruitment and selection process to the profession of medicine as a matter of social accountability. Ceci comprend le recrutement d'une population d'étudiantes diversifiée et diversifiée dans un sens très large, incluant les gens des groupes sous-représentés dans la profession et dans la formation, dans les programmes de formation médicale. Ça inclut aussi offrir un programme de formation médicale qui reflète la complexité et la pluralité du public et des publics que nos diplômés serviront dans le futur en tant que médecins. And along these lines, we want to make sure that you understand that we encourage and that you are transmitting the message to your peers and your younger siblings that the Faculty of Medicine strongly encourages applications from students from all backgrounds, including students from underrepresented ethnic, cultural, racial groups, sexual minorities, and from students from socioeconomically disadvantaged backgrounds as well. We understand that these are actually important populations for us to be recruiting into the profession. And so if these are communities that you might belong to, or that you have friends who belong to these communities who think that medicine is on the horizon for them, we would like you to know that this is a very welcoming and inclusive environment. One of the programs that we have in particular is the Quebec First Nations and Inuit Faculties of Medicine program. Par le biais de ce programme, nous avons entre les quatre facultés de médecine à Québec, nous partageons quatre places minimum chaque année pour les étudiants éligibles dans cette catégorie. Et il y a beaucoup de renseignements sur le programme avec le lien qui est là, le « Je deviens médecin ». This is just a quick graphic to give you a sense of the, when we talk about diversity in our class, we mean it in, as I said, in a very broad sense. And this is a picture of what makes up the MDCM class, or who makes up the MDCM class in the Faculty of Medicine here at McGill. So over to your left, in the yellow, this is the group that's here right now, the MedP students who, once they successfully complete the MedP program, will be moved up into the MDCM program. But then once you're in the MDCM, you're sitting in classrooms with Quebec University graduates. So those are residents of Quebec who hold university degrees, all of them with bachelor's degrees, many of them with master's degrees, some of them with PhDs. We have a non-traditional pathway, which is for students who have come in to come to the decision to pursue medicine after a somewhat more circuitous or less direct path to the medical profession. We also have two places, advanced standing places for international medical graduates. This is a cohort of students who are actually licensed medical practitioners from other jurisdictions who are trying to access the profession here in Quebec. As I mentioned before, we have the Quebec First Nations and Inuit Faculties of Medicine program, and we have 9 to 10 places every year for students from other provinces and territories in Canada, and 4 to 5 places for international students. And I'm going to pass the microphone now to my colleague Michel Danseau, who will become very well known to you in the next few years.
Salut tout le monde. Bonjour, mon nom c'est Michel Danseau. Je suis l'agent principal des admissions pour la Faculté de médecine. My name is Michel Danseau, Senior Admissions Officer for the Faculty of Medicine. I'm going to talk to you about more about the little aspects, more technical aspects in regards to the MedP program. Avant que je commence, j'aimerais juste savoir qui sont plus français, francophones, anglophones. Okay. Qui sont dans leur dernière année de cégep? OK. Et première année de cégep? D'accord. OK. Alors, comme on a dit, je vais passer par les informations. Si jamais vous avez des questions, on aura un moment à la fin pour poser ces questions-là. Et n'oubliez pas, vous autres aussi, vous pouvez poser les questions. En termes de l'année préparatoire, je vais vous donner un petit aperçu. Comme vous voyez, on a eu beaucoup de demandes l'année dernière, 671 applications or requests to applications, and 200 of those were interviewed. There were a lot of offers that were made, and 85 students are registered annually. In terms of the ratio, it's 62.1% female. Ça donne un ratio d'à peu près de 1,58 femmes pour chaque homme. Je sais pas si c'est un bon chiffre pour vous les gars ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour noter au moins en termes de les statistiques et en termes de l'âge moyenne, 19 et demi. Cotère moyenne de ceux qui ont été admis, c'est dans les 34, presque 35. Okay? C'est quelque chose à noter, mais je veux juste aussi prendre ce moment pour dire que le cotère, c'est quelque chose qui est significatif, mais c'est pas la première, c'est pas l'absolu en termes de la sélection. So the R-score, as you can see, the average R-score of the admitted students was almost 34 and three quarters, which is quite high. But we have admitted students with R-scores that are, well, below 32 even. So this is just to show you that we do look at a wide range, and the R-score, as it's an important part of the admissions process, but it's not the be-all or end-all in terms of the process. And we represent a wider variety of cégeps across the province. And they end up looking something like this. This is last year's class, and you can see in terms of their diversity and makeup, well, maybe if you zoom in I don't know. But anyways, it's just to show you a little picture there as you look at that. Let me talk about what is the preparatory year. Okay. In terms of how we present it here at McGill, it is specifically designed for you as graduates of the Cégep system. And how it works is that there is an année préparatoire, a preparatory year that you do before you enter into the four-year program of medicine. The preparatory year itself, or let me talk about medicine first, the 4 years of the medical curriculum, we call it MDCM. It's from the old English style, Doctor of Medicine and Master of Surgery. Donc notre programme en titre, c'est le doctorat en médecine et maîtrise en chirurgie. Ça, ça vient du vieux anglais, étant donné qu'on est là, c'est la plus vieille faculté de médecine ici au Canada. On se garde ce titre-là. Ça ne veut aucunement dire que vous avez plus que le MD de l'Université de Montréal ou de Sherbrooke ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment un terme de titre. Mais en termes de l'objectif du curriculum, à son fondement, c'est vraiment pour avoir non seulement, comme vous voyez sur le titre, sur le diapo, si je le mets en autre mot, non seulement la profession ou la science de la médecine, mais aussi l'art de la médecine. Ces choses-là sont aussi importantes. So that's one of the things in regards to the objectives of our curriculum. We want to focus very much in regards to the science of medicine, of course. There's certain foundations, obviously, in terms of medicine, has a foundation in science. But medicine is also a profession. Being a physician, a surgeon, is also a very, you know, a demanding profession, and there's an art to it as well. So art and science of medicine. So that's why one of the main things is to increase the integration of both the clinical and the basic sciences, medical sciences. Those are the 4 years of the curriculum, which I can say that starting in this September even, is undergoing a new change. There's a lot of buzz about it, and actually I don't have that much information yet in regards to it, but we are still concentrating, or the faculty is still working hard in regards to making all of these advancements all the time, these progressions in regards to the medical curriculum. And one of the big changes that's up there is that there will be a good balanced approach or a strong balance between family medicine and specialties and these kind of things, community medicine and all of these subspecialties in medicine. So there will be a good strong approach, and a good advantage for you as potential future students in that program is that from year one of medicine, you will actually be starting into certain clerkships, clinics, going into family medicine clinics from year one. Donc, de la première année du nouveau curriculum, vous allez rentrer dans les cliniques de médecine familiale avec ce nouveau curriculum qui prend place ce septembre même. Mais avant de rentrer dans ces 4 ans de médecine, il faut faire l'année préparatoire. Et l'année préparatoire comme telle, c'est vraiment une année typique, comme si on était un étudiant ou une étudiante dans un baccalauréat en sciences, par exemple. 6 cours dans une année, donc typiquement divisé 3 cours dans une session, 3 cours dans l'autre session, qui sont obligatoires en sciences. 3 cours qui sont obligatoires en sciences humaines et sciences sociales. Et aussi, on a un nouveau ajout à ceci, les cours de langue. Et 1 cours parmi les plus de 300 départements que nous offrons ici à McGill, qui sont à l'option pour vous pendant votre année préparatoire. So the preparatory year itself really is almost a typical Bachelor of Science year. And that's part of the idea, right? We're going to give you all of the necessary information in regards to the medical curriculum and all that as you go through your 4 years of medicine. The preparatory years to give you that good transition, if you will, or adaptation into the university lifestyle, and so you're living a life, an academic life, as if it was your first year of a BSc. So 6 years, 6 years, sorry, 6 courses in your core sciences, 3 courses that are in social sciences, in humanities, and something that's also new, in languages. so an artistic side of it. And also, that leaves you one course to take among the over 300 departments that we have here at McGill that are available to all arts and science students. So there's definitely a lot of opportunity to build the curriculum that you would want, or the preparatory year as you would want. And there's not that many requirements. Really, all that we ask in order for your place to at least be guaranteed in terms of your guaranteed admission into the first year of medicine is that you have a minimum grade of B in your core science courses, and at the end of the year, you have a 3.5 on a 4.0 GPA scale. Donc, en termes de qu'est-ce qu'on demande, ce ne sont pas des exigences comme telles, c'est vraiment des objectifs de l'année préparatoire. Et si vous atteignez ces objectifs, bravo, si vous, pour une raison ou une autre, vous manquez ces objectifs, on va travailler avec vous, avec ces certaines options-là. Mais en termes des objectifs de l'année préparatoire, il y en a vraiment juste deux au niveau académique. La première, c'est que vous avez la note minimale de B dans les cours de sciences. Un B à McGill, c'est 70%. Comme vous voyez, un A à McGill, c'est 85%. Alors, ça, c'est l'échelle que vous voyez ici. Donc, ça, c'est le système de notation. L'autre chose, c'est qu'à la fin de l'année, vous avez une moyenne pondérée de 3,5 sur notre système de 4 parmi les 30 crédits ou les 10 cours que vous avez. What's a 3.5 GPA? That's roughly a 77%. So, if you hold above 80%, you're golden. En termes des conditions d'admission, je vais passer la parole ici à Sophie. Sophie vient de nous joindre. Je ne sais pas si tu veux t'introduire, Sophie.
Oui, merci. Je vais prendre le micro ici. Donc oui, Sophie Marcoux, je suis maintenant, pour cette année, en admission avec la faculté de médecine. J'ai été en recrutement avec aussi, ici à McGill, l'équipe de recrutement qui se déplace dans les cégeps puis qui va voir les étudiants. Fait que j'ai peut-être déjà vu une 75 de cégeps qu'on fait par année. Donc peut-être qu'on s'est déjà rencontrés, peut-être qu'on a déjà parlé de certaines des choses qu'on va parler aujourd'hui. Je vais le faire comme mes collègues anglais-français. Peut-être que vous voyez, je suis... très francophone. Mon anglais va peut-être avoir un peu un accent, mais bon, ça fait partie des choses. Mais vous allez voir que c'est vraiment important si à la fin vous avez des questions aussi, là, mais de se dire que si jamais c'est quelque chose qui vous inquiète ou vous avez des questions sur ça, à savoir le français à McGill, comment ça va, ben vous pouvez me le demander. J'ai étudié ici aussi. Je viens de Québec, alors puis c'était ma première fois à étudier en anglais. Alors j'ai eu l'expérience un peu, puis avec d'autres amis là pendant nos années d'études, j'ai trouvé toutes sortes de trucs qui, si vous voulez, on peut en parler aussi. La même chose pour les gens à la maison. Là, si jamais vous avez des questions, on est toujours disponible au bureau d'admission. Vous allez avoir nos coordonnées. Ou si vous voulez aussi nous poser des questions en ligne, on va les avoir puis on va essayer de les répondre après. Alors moi, je vais continuer avec des choses très intéressantes, probablement des choses que vous savez déjà un peu, mais là, on va juste être sûr de vraiment essayer de vous informer comme il faut pour ce que la prochaine étape, là, dans le prochain mois, on le sait que vous voulez appliquer, vous voulez remplir tous les critères comme il faut, alors on va en parler en détail. Si vous avez des questions, encore une fois, à la fin, on va vous répondre. So this was a lot of French. Hopefully everybody understood. So the things to remember, and as I said, I'm sure you probably are aware of those. I won't read through the slides, but we put a lot of information just to make sure that it is on the PowerPoint. It's all things that you can also find on our website. I'm sure you're familiar with the website as well. We left, at some slides, we left the exact place on the website where we found the information. So if ever you want to go back to it, or it's going to be recorded, and so you can access this PowerPoint as well from home. So if ever you want to find what we were talking about, then you'll have the information. So it's important to fit or to have all these criteria when you apply. So to be a legal resident of Quebec, to be enrolled in your CEGEP program. Often we have a lot of questions as Exceptions, I guess, so we can go through those as well. But for now, we'll go through the sort of the regular stuff. It has to be a science program. And as well, we'll talk a bit about more about the course load on the next slide. You'll notice that there's certain, even though it has to be a science course or a science deck, I guess I could say, it has to have certain criteria in terms of which courses you need. We have them listed here. It's a list that I'm sure you're familiar with as well. Alors, c'est tous les cours là, donc, que vous avez besoin d'avoir avec vous. C'est sûr que lorsque vous appliquez, des fois, vous êtes dans votre troisième session, en général, avant le 1er mars. Là, donc, vous êtes probablement en train d'en terminer quelques-uns dans votre dernière session. Mais il faut avoir terminé son deck avec tous ces cours de sciences-là en prérequis. Là, on a mis les codes et tout, là, mais je suis sûr que vous allez reconnaître les cours que vous prenez dans ces cours-là. Il y a toujours un peu des decks, encore une fois, ça peut être une question qu'on répond à la fin. Il y a des decks qui n'ont pas toujours exactement le même cours que vous voyez ici. On l'a marqué en bas, là. Un de ces exemples-là est le deck Sciences, Lettres et Arts. Alors, on comprend ça et on le sait, on pourra vous parler de comment on procède avec ça, mais vous êtes admissibles. Alors, tous les étudiants qui ont des decks de sciences, comme j'ai dit, sont admissibles au programme. Alors, les choses à éviter, les choses qui vous rendraient là inéligibles au programme, the things to avoid, I think from experience, most of you have heard of what they are, but again, I think it's important to put them here. You need to make sure that your course load, the 6 courses per session that was mentioned in the other slide, you have to make sure that you follow basically your program at the regular pace, which means you have full sessions and you do your program in the regular 2 years. Sometimes there's questions regarding that because of certain things like sport-étude and medical reasons. So there is a few exceptions to this rule. They are on the website and we can mention them more in detail if you want. But normally your deck has to be done in 2 years. Les choses aussi à voir, c'est que les cours obligatoires, donc quand on dit cours obligatoires, on va dire les cours de sciences en prérequis, peuvent pas être faits en cégep à distance ou dans des sessions, évidemment, dans des sessions intersessions, des sessions d'été, vu que c'est requis de faire le DEC là, dans les sessions normales. Donc, comme j'ai dit aussi, là, avec les exceptions, si jamais des fois c'est des choses médicales ou le sport-études, il y a un formulaire en ligne, vous allez le trouver, il faut remplir pour le sport-études le formulaire. Pour des raisons qui seraient autres, lorsque vous faites votre application en ligne, ça c'est pour tous les programmes à McGill, il y a toujours une question qui dit « avez-vous des raisons atténuantes ?» In English, you would say in the question, in applying, when you apply on the form online, there is a question that says, do you have extenuating circumstances that you would like to share? So when you say yes to this, this is where you would send in medical forms or explanation of what you want us to look at, basically. So this is a way that you could go about giving us this information. On va passer maintenant à la sélection. Donc, c'est bien de se rappeler que, comme on parlait tantôt, que c'est sûr que c'est un côté académique important. On s'en rend compte, là, quand on parle des cotards de 34, la moyenne, on comprend que ça veut dire que c'est des étudiants qui performent très bien académiquement. Même s'il y a des variances dans cette cotère-là, on respecte ça. Maintenant, on va parler, par exemple, de l'autre portion là, de notre évaluation. On va essayer de vous donner des critères sur lesquels vous pouvez faire des réflexions et puis regarder qu'est-ce qu'on veut dire. Souvent, quand on va dans les écoles puis on rencontre les étudiants, ils nous disent « mais c'est quoi ça, ces autres choses-là qu'il faut que je parle ou que j'aille faire ?» Ils nous disent « est-ce qu'il faut que ça soit absolument certaines activités ou alors il y a beaucoup de questions un peu sur ça. On a aussi cette information là en ligne, mais là ce soir on vous la présente pour essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qu'on recherche dans les candidats. Donc là c'est écrit là ici sur la page. Alors il faut vraiment se poser ces questions là avant là, d'écrire puis de nous présenter votre autre côté, pas celui qui est académique, mais vraiment les autres choses, les lettres à écrire et le CV, tout ce qu'on veut savoir. Posez-vous ces questions-là, puis voyez qu'est-ce que vraiment vous pouvez répondre à ça. Je vais vous montrer ensuite. Il va y avoir deux pages, là, parce que c'était trop gros pour mettre sur la même, alors une en français, une en anglais, mais je vais vous montrer quelle sorte de qualité. So, which qualities and competencies that we would look for when you ask yourself these questions? What do we mean by the qualities we look for? So there's a whole list here that you can look through and sort of basically, I guess, inspire you to really look into what you've done and why you want to go into the profession. And then you can sort of answer the questions and write the letters with those in mind. So this is, again, you'll be able to look at those online or on the website. And this is the French version. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on recherche quand on parle là, des autres critères. Je sais que c'est ça. Il faut vraiment regarder ça comme il faut, puis réfléchir, puis vraiment voir qu'est-ce qu'on a, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec notre carrière, dans le fond. Puis quand vous êtes prêts là, vraiment à écrire et à nous envoyer ces documents-là, qu'on va vous montrer plus en détail exactement comment les envoyer, c'est sur ces vraiment ces habiletés-là qu'il faut écrire nos textes, dans le fond. Alors, c'est ça. On a divisé, là, il y a un pourcentage un peu qu'on vous donne une idée de comment on fonctionne avec les critères d'admission. Le processus est comme tel. Alors, la cotère ou le rendement académique, quand on regarde au début, ça va être basé sur « we're going to give a 70% » and then the text will be 30% of the selection process. This is how it's divided, so keep that in mind, so it's important to know. And then once this is the first step, basically, is done, then you have the interviews, and we'll go into details with those as well. But I think it's important to sort of, we also have that question often, like, how does it work? So this is the process in detail. So when we mention the phase, when we say 70% and 30%, you'll notice it's phase number one. So in phase number one, we'll look at your academic performance, so your R score on your DEC. And then we'll also look, and again, we're going to go through those in detail, but we're going to look at your personal statements and your CV highlights. Alors, je sais pas, c'est sûrement que vous avez déjà eu la chance un peu de regarder là sur le processus en ligne, à savoir qu'est-ce qu'il faut envoyer. Alors, il faut toujours penser qu'au début, ça a plusieurs phases, le processus, dans le fond. Et la première phase va être basée sur le côté académique et l'exposé personnel et les points saillants de votre CV. Alors ça, c'est vraiment quand on parle là, du 70 et du 30%, ça va être sur ça. Et après va venir la phase 2. À ce moment-là, c'est les autres critères qui vont être pris en considération. C'est important, peut-être, on va peut-être en revenir aussi, on va peut-être avoir des questions là-dessus aussi, mais je vais le mentionner, là. C'est important de se rappeler que, encore une fois, on a souvent des questions sur ça, mais la langue, l'institution, donc quand on veut dire le cégep de lequel vous provenez, la langue dans laquelle vous parlez, si vous remplissez tous vos critères en français, hein, c'est, je vais le répéter, là, mais vous pouvez le faire tout en, vous pouvez tout écrire en français, vous pouvez, ou tout en anglais, et puis ça n'a pas d'importance, là. On regarde pas de quelle langue et de quel cégep vous provenez. Vraiment, c'est vraiment basé sur les critères de lesquels on venait de parler. La cotère et les qualités et les habiletés dans lesquelles on disait que ça soit dans n'importe quelle langue. Donc, c'est vraiment le candidat en tant que tel qui l'est évalué. Maintenant, je vais redonner la place à mon collègue Michel, et puis si vous avez des questions sur cette partie-là ou n'importe quelle partie-là, on peut y revenir à la fin. Merci beaucoup.
Merci Sophie. Alors, c'est ça, en temps de présenter sa demande, là on va rentrer en termes des aspects un petit peu plus techniques que l'aspect auquel vous êtes présentement, probablement présentement en train de faire, et que vous voulez savoir comment qu'on fait ça. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est absolument la date limite. So the deadline is March 1st. Okay, what does that mean? March 1st, actually, for the first and more important step in regards to submitting your application, and that's actually kind of, as I would say, putting your name in the hat. In terms of how we proceed here at McGill, that would mean going into our online system and filling out all of the application forms and submitting your application, paying the application fee, and having that step. That step must be completed before 9 p.m. on March 1st. Alors, la première étape, c'est de compléter avant 21h du 1er mars. La première étape qui est vraiment de compléter tous les formulaires, de faire sa demande pour le programme et autres programmes aussi. Notre système, comment ça marche, c'est que vous avez deux choix pour un prix. Alors, qu'est-ce que vous mettez pour le deuxième choix, ça peu importe pour nous. Puis ça fait aucun effet sur les autres demandes que vous avez. Si vous mettez MedP en premier ou un autre en premier ou quoi que ce soit, on regarde pas ça. C'est vraiment, vous avez la place pour deux choix. Mais vraiment que vous complétez tous ces formulaires et que vous payez les frais d'admission avant 9h ou 21h, c'est-à-dire le 1er mars. En effet, je vous dirais de compléter cette étape le plus vite possible. Alors, ça vous donnerait au moins votre numéro d'identification, ça ouvrirait votre dossier et vous aurez votre compte Minerva, qui est l'étape nécessaire pour télécharger tous vos documents à l'appui. So I would strongly recommend, everyone, that your application step, this particular step, is actually completed well before March 1st. So that way, once you've completed, you will get your McGill identification number, a confirmation that McGill has received your application, and more importantly, you will get a Minerva account. And this Minerva, which is our web-based administration system, is a place where then you would be able to log in and submit your supporting documents, the documents that we were just talking about before. Okay. Quelque chose à considérer, on a 85 places pour médecine préparatoire. Nous recevons plus de 600 demandes par année. Alors, on reçoit beaucoup de demandes pour ces postes. Et ceci, c'est sans tenir compte de l'institution de langue ou ainsi de suite. There is no favoritism. I will say this again. There is no favoritism for one particular cégep over another, for one particular program over another, for one particular kind of student over another. Right? Everybody applies, and everybody who applies and is eligible gets equal chance for one of the 85 spots. But do keep in mind, it is very competitive. We receive over 600 applications, perhaps even over 700 applications for it. Okay. So, as I said, step one, complete that first step. And the advantage of completing that first step early is you get your McGill ID number, you get your Minerva account. Just as a little technical note, how it works is that if you do it before 9 p.m. on any given day, you will receive an email confirmation sometime after 9 p.m., usually around 11 o'clock at night or whatever. But at least if you do it before 9 p.m. of the given day, it will be processed that evening. Alors, l'avantage de le faire, c'est que si vous le faites avant 9h le soir, vous le recevrez ce soir, le même soir, en termes de la confirmation, ainsi que votre numéro d'identification et votre compte, et ainsi de suite. Il faut absolument compléter étape 1 avant d'avoir étape 2. C'est comme ça l'ordre, right? Et donc, étape 2, vraiment, c'est fournir les documents à l'appui. Notre site web, vous allez trouver une section qui dit « Documents à l'appui ». Et là-dessus, vous allez trouver les formulaires pour télécharger sur votre ordinateur, par exemple, et vous complétez les documents là-dessus. Et ensuite, lorsqu'ils sont complets, vous les téléversez par le biais du compte Minerva pour compléter votre demande pour avoir tous les documents à l'appui. I'll get into that in a moment. But really what I'm saying is that step two is then the supporting documents. And step two, by the way, we want all documents in by midnight of March 2. Okay? Donc, il faut faire ça vite. Ça serait à votre avantage de commencer ça tout de suite. It would be a good advantage for you to maybe start planning on this right now. What are these documents? Well, you're going to see this large list here. Actually, je vais faire ça en français parce que diapo est en français. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Ben, en bref, voici la liste de qu'est-ce qu'on utilise, mais vraiment, qu'est-ce que vous avez à télécharger, c'est pas beaucoup. Mais je veux juste vous montrer c'est quoi qui est nécessaire. La première, c'est vos notes. C'est sûr qu'on a besoin de vos notes. On reçoit ceci par le gouvernement. Et donc, lorsque vous complétez votre demande en ligne, il y aura un petit espace auquel vous rentrez votre code permanent. Et par ceci, on peut recevoir vos notes. Alors, ça, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de demander à votre cégep de télécharger ou d'envoyer les notes. C'est fait automatiquement. Les étudiants de Stanislas et de Marie-France, ça aussi, c'est fait par votre bureau de registraire. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez juste vraiment de mentionner que vous avez fait une demande en médecine. Les antécédents scolaires, ça, c'est vraiment un dossier pour le niveau universitaire. Ça ne applique pas à vous. Alors, si vous voyez sur la liste, c'est pas pour vous. L'exposé personnel, ça oui. Donc, il y a vraiment trois documents que vous composez vous-même. L'exposé personnel, un curriculum vitae, un CV, et un petit texte de points saillants sur les CV. Je vais rentrer dans les détails un petit peu plus tard, mais juste pour vous montrer, il y a trois choses auxquelles vous devez créer. Quelque chose de nouveau. Mesdames, messieurs, les lettres de recommandation, les lettres d'appui et ainsi de suite ne sont plus acceptées. Les rapports d'évaluateurs ne sont plus acceptés. Alors, nous ne demandons pas ces informations-là et nous ne voulons pas les accueillir non plus, les recevoir, c'est-à-dire pour votre dossier, on ne prend plus ceci en considération. Okay? To switch very quickly, transcripts, we will be getting those thanks to your permanent code that you'll be supplying to us in your application. So please double-check your permanent code before you enter it, before you complete your application. And really, there's only three main texts that are part of the application that you'll be submitted. These texts, as I mentioned, will be due at midnight on the 2nd of March. So if you apply early, you get your account early so that you have time to upload those. Your personal statement, which I'll get into detail in just a moment. A CV, a standard CV, and something that we call a text of CV highlights. Which is really just some highlights about your CV, right? One thing to note, letters of reference, we are no longer asking for them. So referee reports, letters of reference, or those kind of things, they're no longer used in the application, and there is no longer any need to submit them, as we will not use them for your file. What is the personal statement? C'est quoi ce exposé personnel? En bref, c'est un texte auquel, dans 700 mots, un maximum de, vous allez expliquer vos expériences, vos diverses expériences, et comment, d'après vous, ça vous qualifie pour devenir un bon médecin. Right? This text that you see on the screen is definitely on our website, so no need to frantically write this down, as I see some people doing. But I can understand. This is going to be one of the main texts that's there. How you're going to submit that, pardon me, is you're going to find the form on our website, and you're going to download this particular form. You can work on the text on your own time using your own, you know, if you have Word or whatever you want to use, you can do that at home. But when you're finished, or at least when you're ready to submit it, you will use the form to put it in there. There's some fields that you will find where it's going to ask for your name and your McGill ID number and all of that. And once you're finished, you'll make sure that you save or that you have that completed PDF. It's a PDF file, and then you upload it. The important point that I want to highlight here is that you only have one chance to upload. Okay? Donc, assurez-vous que c'est le document final que vous téléchargez, que vous téléversez à votre compte. Okay? Les points saillants. Alors, en termes de la première étape, la première phase de sélection, votre code de rendement, votre code R au collégial, ça va pas jouer un rôle significatif, mais pas exclusif. Le texte, l'exposé personnel joue un rôle ici, à peu près 20%, et les points saillants, 10%. C'est quoi les points saillants du CV? C'est vraiment auquel vous choisissez trois choses. En bref, trois choses qui vous distinguent. Okay? prenez en note que nous recevons plus de 600 demandes en même temps et que, en termes de qu'est-ce qui vous distingue, c'est ça qu'on cherche. C'est ça, vraiment, dans un petit texte, pas plus de 300 mots. 300 words, actually, when you come down to write about it, might not look like a lot. Or sometimes might be look like way too much because you have no idea what to write. But the idea behind the CV highlights is to find out what you believe distinguishes you. What three things that we might find on your CV distinguishes you. It's important to note that we're not asking you to reiterate or to regurgitate your CV. We don't want that. We want a little text that you feel that has some thought to it, some depth to it, that talks about how you are distinguishing yourself from all of the 600, 700, umpteen hundred applicants that we are receiving. What makes you, you? Bless you. Yep.
Throw a few more words into the conversation around this step of the process for you. It's a very crucial part of the process for you. As Mr. Donsel was saying, this is what you actually have control over. Your record is more or less complete at this point, and those pieces of writing that you are going to be submitting to the committee, these are pieces of writing that people on our admissions committee, over 100 volunteers in our committee, will be sitting down to read. Any given evaluator will be reading 50 to 100 of these documents at a time. So when we say that you need to distinguish yourself, I want you to really reflect on that. I think it's a very important exercise for you as potential physicians to look at those questions that we ask you to look at the beginning of this process, of deciding whether you're actually going to pursue this profession or not. Ask yourself why you are motivated to do this. Will that motivation that you feel now sustain itself and sustain you through what is going to be a demanding, rigorous, very challenging program and very demanding profession that will require you to make sacrifices, to give things up, to serve other people? You need to be able to take concrete things in your life and in your experiences and communicate them effectively and concisely to people who are giving their time to evaluate the credibility of what you are saying. And I'm saying this only in English because I feel like I can express myself better for this very important message. If you would like, I can try to say it in French as well. But every step of the way, and particularly in the parts of these application documents that are really under your control, it's your pen, you are demonstrating your judgment to the committee. And the committee is looking for good judgment in the choices that you have made, in your understanding of those choices, in your understanding of yourself, and what kind of person you are going to be in what is a very privileged position vis-a-vis society. So you will take that privilege if you earn it, and then you will hopefully demonstrate to the committee that you are responsible enough to carry that responsibility forward and to fulfill the obligations. You will have obligations to the public that you are going to serve as a future physician. So I think it sounds very heavy and gravitas and all of that, but this is not a joke. I don't think any of you think of it as a joke. This is a lifetime that you're asking to commit to. So you need to demonstrate, and that is what will distinguish you, the ability to demonstrate that you have reflected thoughtfully on this decision. It's your decision. You're going to have to live with it. You're going to live with the outcome. You will live with the outcome of the choices that you make and how you write these documents.
Et si vous me permettez, je fasse ça très très vite en français. En bref, qu'est-ce que Charmaine, Maître Lynn nous disait, c'est que votre réflexion, c'est quelque chose de très significatif en termes de processus d'admission. C'est quelque chose qu'on cherche. Alors c'est important. On dit trouver trois choses, trois points saillants de votre CV qui vous distinguent. Mais ça veut pas nécessairement dire que c'est les trois choses comme telles. Oh, bravo, j'étais à Nicaragua pour construire une église avec tel groupe. C'est beau ça, mais peut-être pas tout le monde a cette chance-là. Peut-être aussi que vous avez, pour vous, vous avez travaillé à McDo. Et comment est-ce que ce travail pour vous, est-ce que ça vous distingue? Voilà. Alors vraiment, qu'est-ce qu'on essaie de dire, c'est que c'est la réflexion de ceci qui est très, très, très important. Et c'est ça qu'on veut voir dans vos textes. C'est pas nécessairement quoi, mais je sais ça joue un rôle, mais pourquoi? Le CV aussi, ça fait partie du processus de sélection, ça fait partie des documents à l'appui. Alors, comme tous les autres documents, vous allez le téléverser, télécharger, je ne sais pas le bon mot exact, là, mais le télé-uploader par le biais de votre compte Minerva. Ça aussi, c'est un texte standard. Peut-être c'est votre premier CV que vous allez composer ou écrire pour la première fois. Un CV typique, c'est 2 pages. Et voilà. Alors, un CV typique, c'est 2 pages. Il faut s'assurer pour nous, les 2 premières pages, c'est strictement votre CV. Vous avez des appendices qui sont disponibles pour d'autres choses, des vérificateurs, par exemple. Je pense qu'on a un diapo là-dessus qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais vraiment, pour tous les documents, l'exposé personnel, le CV Highlights et le CV, tout ça, c'est par PDF. L'exposé personnel et le CV Highlights, c'est un PDF que vous téléchargez premièrement de notre site web, que vous remplissez, ensuite vous téléversez vers le haut. Un petit truc, il faut faire une petite chose d'impression, print the PDF, and not save as PDF. C'est une drôle chose de Adobe que je sais pas pourquoi ça fait comme ça. Mais le truc, c'est que c'est même inscrit sur le formulaire. Vous devez voir. Si ça a bien marché, votre numéro d'identification apparaîtra sur toutes les pages. C'est supposé être une chose automatique. So a little thing, a little tip, a little aspect in regards to when you're getting these forms from our website. You download them, you can fill them in. The trick though is that you do not go file, save. Once you're finished with the form and all that, you go file, print. Okay? C'est ça la grosse différence. Parce que la fonction d'impression, it doesn't have to be like physically print to a printer. It could go print to PDF. But the idea is that when you're doing a print, you are sealing the document. And when you do that sealing of the document, there's some little functions there. And you would know that it works by seeing your McGill ID number appear on the next page. Okay? Et donc, c'est pourquoi vous assurez de faire ceci et toutes les autres étapes avant de compléter votre demande et que lorsque vous téléversez les documents, c'est les documents finaux. So make sure that these are your final versions that you are uploading because you only get one chance to upload, okay? Interviews. Anybody interested in the interviews? No? Okay. Les mini-entrevues multiples. C'est quoi les mini-entrevues multiples? Est-ce que, juste pour voir, qui connaît un petit peu au sujet des MEM? OK, ça, c'est à peu près 10%. OK. C'est quoi un MEM? Mini-entrevue multiple. Multiple mini-interviews. If you go onto Google and go MMIs, you're probably going to find a lot. People on the web, if you do that right now, let me know if it works. Les mini-entrevues multiples, how can I put this? Probably the easiest way would be speed dating. What is it? The idea behind multiple mini interviews is that instead of long panel interviews, there are multiple interviews that are shortened and maybe talk about one particular aspect. These interviews, you're going to have multiple of them. They're going to be in a circuit. And so at the end, these multiple mini interviews that you have gone through will give a better overall picture than 1 or 2 long interviews. Les mini-entrevues multiples, c'est justement ça. Ce sont des mini-entrevues qui sont vraiment à une question ou une petite chose, un aspect, et que sont raccourcis, pas plus que 8 minutes typiquement, et que vous en avez plusieurs. Quand on met tout ça ensemble dans un circuit, à la fin, on a un meilleur aperçu de vous que de longues entrevues. Comment est-ce qu'on se prépare pour ces entrevues-là? On peut pas se préparer. It's not something like a classical interview that you might, I don't know, you might find some questions or some reflective pieces that are out there. In terms of multiple mini interviews, just be yourself. Alors c'est ça. Les mini entrevues, comment ça marche? Faut juste être vous-même. Comme j'ai dit, il y a 10 stations. 8 minutes chaque en 3 types. Les types, en bref, sont mise en situation avec un comédien ou une comédienne, discussion avec un évaluateur ou à base de tâches. So, these three types or formats in regards to the mini interviews, you'll have a staged scenario that will be with an actor, so you might be reacting to a particular situation. A discussion with an evaluator, so what are your thoughts on, and a task, perform this particular task, which may or may not have a person in the room with you. So there's an aspect there. I don't know if you want to come in and, yeah, so I'll let Charmaine talk a little bit more in regards to the interviews.
Just to give you a little bit of background about why we do multiple mini interviews, I think it's important for you to understand that we didn't make this decision lightly either. We piloted this in 2008. Following the lead from McMaster, where the format was first invented, and many medical schools now implement multiple mini interviews, including all of our sister schools here in Quebec, which do the MEMFI, which you probably have heard about. So the idea and the sort of rationale behind moving to this format of interviews is really a question of validity. It's a question of all of this literature telling us that traditional interviews where one candidate sits down with two or three people and talks about themselves isn't really predictive of anything. It doesn't tell you what kind of doctor that person is going to be. And the value that we see in the multiple mini interview is that it allows us to observe potential candidates and how they behave under certain circumstances. So we put you in situations where we're basically watching you and seeing how you conduct yourself in a given situation, because that's what's going to happen when you hit the hospitals. You're going to be confronted with things that are happening that are expected and that are unexpected and that you planned for and that you didn't plan for, and that you're going to have to make decisions about on the fly. So the idea is that we're really getting to see an authentic demonstration of how your values and ethic and professionalism and quick thinking actually play out in high-stakes, high-stress environment. How can you prepare? You can sleep really well the night before. And I'm not joking. I really think you should try and sleep well the night before and eat well the morning of. And knowing that there are 10 stations that are 8 minutes with 2 minute intervals in between, if you can actually train yourself to think about how to use those 2 minutes, I think if you can center your mind, center yourself for those 2 minutes to put what just happened behind you, whether it was great or whether it was terrible, and move forward into the next exercise. I think that is actually a tangible thing that you can practice doing, and that might actually help you to be more calm and relaxed and feel ready to go forward in the interviews. Selon les candidats qu'on a déjà accueillis pour les entrevues, la réponse, la réaction était très, très positive. Les candidats perçoivent que le processus est plus, plus valide, plus équitable. En bout de la ligne, si vous êtes convoqué pour une entrevue, votre dossier, votre candidature, incluant vous-même dans l'entrevue, vous allez être évalué par au moins 15 personnes. We think that that's huge value for you as a potential candidate to have many different people looking at you, and you have 10 chances to show us how great you are, as opposed to one chance to talk to somebody for 2 minutes or 20 minutes. So that's why we do the multiple mini interviews. That's why we think they're actually very helpful to us to understanding what kind of person you are going to be as a colleague, as a teacher, as a learner, as all of the things that you're going to be as a health professional. I did want to say one thing about the CVs as well, the full CV that we look at. We frequently get questions about how many hours of volunteerism do I need to do in order to be a strong applicant. We have no requirement of a certain number of hours of anything. We want you to demonstrate to us through your CV who you are in the world. So your academic transcript will tell us how you perform in a structured curricular environment, and your CV will tell us what you like to do with your time and how, where your values are, basically. What do you do outside of school or connected to school? And it's important for us to know that you have some connection to the world around you. It's great if you're a straight-A student, but if you can't talk to people, if you don't know what's happening in your neighborhood, if you don't know what's going on in your family, you may not be the best doctor. We actually think you need to know what's happening in the world around you and to be able to demonstrate that through your activities. And there is value to all kinds of activities. And as Michelle was saying before, yes, it's great to be able to volunteer. It's also great that you're able to work part-time and support yourself. It's great that you're able to be an elite athlete. It's great that you're able to demonstrate the competencies that we're looking for in any manner that your life has presented to you and that you have seized as an opportunity. So do what you do. You don't have to do anything for us. Do what you need to do for yourself and demonstrate to us that you have some insight into why you've made those choices and that you have learned something. That's basically all we're asking you to do in any of the documents.
Si je peux reprendre juste en français vite, qu'est-ce que Maître Lynn nous disait, c'est que votre CV, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut savoir vraiment, c'est qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi que vous avez fait hors de vos études, parce que ceci est important aussi. Et en termes de, c'est pas nécessairement combien d'heures que vous avez fait telle chose, telle. On n'a même pas un minimum ou un chiffre d'heures que dit que ah oui, ça, t'as besoin de X nombre d'heures, puis ah il te manque une demi-heure, vas-y fais ta dernière demi-heure. Ça marche pas comme ça. Alors c'est pas nécessairement la quantité de ou qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment qu'est-ce que vous avez fait. Alors c'est justement ces choses là. Alors, ça c'est notre site web pour vous dire aussi toute l'information que nous avons présentée ce soir est disponible sur notre site web. En effet, c'est la grande, grande, grande ressource de comment préparer votre demande, surtout la section de applying ou soumettre votre demande. Ça c'est là où vous allez trouver toutes les informations spécifiques en termes de soumettre votre demande. Si vous avez des questions, c'est sûr qu'on ouvrira aujourd'hui pour un forum, pour des questions, soit ici ou en ligne. Mais je vous laisse ici aussi en termes de notre site web, notre adresse, et aussi, pour ceux qui sont ici, notre carte, si vous voulez la prendre, si vous avez des questions. Je vais aussi mentionner très vitement que les étudiants en médecine ont aussi préparé un guide. Alors, je suis bien. Ah, ben, OK. Mais ils ont un guide qui sont aussi disponibles. C'est un guide préparé par les étudiants pour vous. Ça, en termes de son contenu, vraiment, c'est d'un étudiant à un autre. Mais je vous avoue, c'est un très bon guide. Il y a de bonnes choses là-dedans. If you want to order this, I guess, how do you do it?
We're going to be selling them outside. So some of you bought them already when you came in, but otherwise we'll be here also afterwards.
D'accord.
Okay, well, we're preparing a fundraiser for the Anorexia and Bulimia Association of Quebec. And
this is basically the admissions guide. It's been redone completely this year. So basically, it's the content's been doubled. It's about all four faculties in Quebec. It's been written by medical students. It's about the whole process, admissions.
Selon leur point de vue.
Exactly.
Je veux souligner ceci,
yes,
okay?
Yes. That's actually a very good point. There's a lot of testimonials about what we've been through, how we handled some things. So we both bought it, and we thought it was actually a pretty valuable book to buy, and it's been completely redone and improved this year. So,
voilà.
And so we're going to be outside. If ever you have questions about life at McGill in general, we can answer them. And we're going to be on the sixth floor right near the exit door. Thanks.
Merci, merci. Alors, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, do you have any questions? Oui, actually, if you want to come to the mics, that would be great. Si vous êtes trop gêné, if you just say it loud, I'll repeat it. Ou s'il y a des questions en ligne, n'oubliez pas d'utiliser la petite touche. Tout le monde est gêné ou on vous a très bien informé, c'est ça? We did our homework well. Good. No. Yes.
I think it's two. For me.
Okay.
Okay. Thank you. It's actually about the CV itself. You said it was like 1 to 2 pages, and we had to put references of contacts that where we work or like volunteered.
Right.
But do we have to put them in the 2 pages of CV, or are they like completely separated in some other?
Some other
page, like let's say a third page of. Appendices, that's
right.
It
would be an appendix to your CV. Uh-huh. So the question is, do we put our verifiers, just to separate from references to verifiers? Verifiers are people that we can contact to verify whatever this activity is, and they would be counted as an appendix, so they would be extra to the 2 pages maximum that you have for your CV. So you'd have your CV, you'd list your activities and whatever they are, and then as an appendix, you would have a verifier for these various activities, so that it's somebody that we could contact if ever we would just want to verify this particular fact or statement.
Just about the verifiers, like let's say, because I read it on the website, like we have to put them for publication, volunteer working, and work experiences. Let's say if we have worked in like 4 places, do you have to put like all 4 of them, or we can pick the one you want?
It would be appreciated if you put all 4.
What if one of the people is not there anymore?
Well, somebody that we could contact, a head of the company, a secretary, or a reception of the company at least. Mm-hmm. Somebody that we could contact, even if it's just a company, generic company address at least, it would be great.
Okay.
In other words, donc c'est pour tout le monde. Pour répéter la question en français, les vérificateurs, les noms des vérificateurs, j'imagine, c'est un appendice à votre CV, donc c'est extra, votre CV, ça compte pas dans les 2 premières pages. Puis le but, vraiment, c'est un numéro de contact auquel on pourrait communiquer avec cette personne-là si on veut juste vérifier le fait. Donc, c'est pourquoi c'est pour une vérification et pas nécessairement pour une référence. Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est sur... les 3 choses saillantes du CV.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est obligé que ce soit des emplois ou des bénévolats ou ça pourrait être juste des activités parascolaires comme des sports ou...
3 choses.
OK. Puis notre question plus technique, c'est sur les pièces d'identité.
Mm-hmm.
Quand on fait pour envoyer, je ne sais pas, le certificat de naissance ou la preuve de citoyenneté?
On reçoit votre preuve de citoyenneté avec votre résultat, avec votre dossier scolaire par le biais de votre code permanent.
Mm-hmm.
Alors, vous n'aurez rien à envoyer, sauf si, par avis contraire, on vous dit qu'on l'a besoin parce qu'il y a quelque chose avec votre dossier pour une raison ou une autre.
Donc, même pas le certificat de naissance si je ne suis pas née au Canada?
Non, parce que ces informations-là seront inscrites avec votre dossier scolaire. Donc, on aura accès à cette information-là avec votre dossier. Vous n'aurez pas besoin de l'envoyer jusqu'à temps qu'on vous demande spécifiquement. Alors, gardez-le avec vous si jamais on vous demande. So, to repeat that very question, that question very quickly, do I need to submit any proof of citizenship? We receive that with your scholastic records. So, you do not need to submit that unless we specifically ask. So you can keep that proof of citizenship and residency and birth certificate in your desk at home until asked.
Bonjour. C'est juste pour savoir, parce que moi j'ai un baccalauréat international, et nous on n'a pas d'électricité en cours de physique. Est-ce que c'est grave ou...
Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on vous demande, c'est que vous avez au moins vos deux bio dans le cours, dans le bac international, puis vous prenez autant de physique que vous pouvez. Je pense que ça un, peut-être deux, dépendant de vos
choix. Oui, on en a deux.
OK. Alors, parfait. Ouais. Alors, si on trouve qu'il y a quelque chose qui manque, et ceci applique aussi pour les étudiants et les étudiantes dans le programme de DEC intégré, sciences, lettres et arts, si on trouve qu'il y a quelque chose qui manque, votre cours au choix devient le cours manquant de physique ou le cours qui manque, quoi que ce soit.
OK. Merci beaucoup.
De rien. Very quickly in English, if you're doing the International Baccalaureate or the Sciences Lettres et Arts, you want to ensure that you have both bio courses there. Anything else that would be missing, we might ask of you to do during the preparatory year, but it still means that you're eligible to apply.
Bonsoir. Moi, ma question, c'est quoi l'importance de la langue écrite et parlée dans les documents qu'on remet et durant l'entrevue?
L'importance de la langue... La langue?
Mm-hmm. Si quelqu'un parle mal, est-ce que ça a un impact sur la note qu'il va recevoir pendant l'entrevue?
Il y a un aspect en termes de communication, oui, qui est nécessaire. Je ne sais pas si...
N'importe lequel des deux.
I think in terms of the...
En termes de notre évaluation...
Mm-hmm. Si quelqu'un qui a un français parlé ou un anglais parlé qui fait des erreurs quand il parle, qui parle pas bien, est-ce que ça a un impact sur ce que...
Vous avez le choix. Oh. C'est le choix du candidat de soit soumettre en anglais ou en français.
Non, ce que je voulais dire, c'est quelqu'un qui fait des erreurs en parlant.
Pendant l'entrevue?
Moi, j'ai fait plusieurs erreurs ce soir, alors je pense que c'est un gros problème. On veut, en termes de... Vous pensez plus en termes des entrevues, c'est ça?
Mm-hmm.
En termes des entrevues, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on veut vous connaître. Et oui, peut-être on est nerveux durant et qu'on... durant la soirée. Et c'est correct. Mais on est assez saisonné pour... voir tout ceci, à travers de tout ceci. Alors, on ne cherche pas la perfection de la langue, on cherche la perfection de vous.
OK, merci.
La perfection,
là. Mais... we're looking for you, so...
Est-ce que ça a bien répondu à votre question? Oui, OK.
Oui, bonjour.
Bonjour.
On a parlé beaucoup des admissions à partir du cégep, mais là, si on parle d'un étudiant qui fait un baccalauréat à l'université, est-ce que le baccalauréat a une incidence ou une importance par rapport à cette admission?
En termes de la réponse brève, non. On cherche, quand on fait des admissions au niveau du baccalauréat international, du baccalauréat universitaire, c'est pas le bac, c'est un petit peu comme, c'est pas où ce que vous avez fait du bénévolat, ou même si vous avez fait du bénévolat, c'est pas nécessairement le bac qui est important, mais que vous vous développez dans vos études universitaires. Si vous avez une question un petit peu plus spécifique à ce sujet, je vous invite de peut-être nous communiquer par après.
Une deuxième question.
Et que mes collègues m'informent à vraiment dire à tout le monde que vous n'êtes pas éligible pour le programme de médecine préparatoire avec les études universitaires.
Deuxième question. Quand on parle à Cotard, qui n'est pas significative, mais j'ai vu qu'on parle d'un 70%, mais selon moi, 70% a quand même une incidence. Je ne comprends pas exactement qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que la cotère n'est pas significative dans les admissions.
Non, la cotère est significative, mais pas à 100%.
Okay.
C'est ça que je veux dire.
C'est pas le seul
critère. Vraiment, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que si on a, disons, un cotère de 38,9, qui est super... Ceci n'est aucunement une garantie que vous allez être admis ou admise ou même convoqué pour une entrevue. En effet, ça peut arriver que des personnes ne sont pas convoquées pour des entrevues quand on fait la révision du dossier au complet. Alors, c'est pourquoi le code de rendement est significatif. Your R-score is a significant aspect of the process, but is not the be-all, end-all. And that is the point that I'm trying to say, in that you really should approach your application with a good balance.
And it's possible, mathematically, for somebody to have a 38 R-score and terrible written submissions and not be invited, and somebody with a 33 R-score and excellent written submissions to be invited for an interview. which sometimes causes people a lot of difficulty.
Oui.
But that's the game that you're asking to play with us. So.
C'est pourquoi nous autres, ou une autre façon de le dire, c'est que le code de rendement n'est pas une chose à franchir. On dit sur notre site web 33,5, c'est qu'est-ce qu'on recommande, mais si vous avez 33,4, ne vous arrêtez pas à postuler. Juste à cause, oh, j'ai 33,4. C'est pas un deal breaker. OK? C'est pas une étape, une ligne à franchir. C'est vraiment un aspect à avoir qui est inclus dans votre dossier. C'est pourquoi pour nous, notre gamme d'étudiants qui sont admis va de 31,8 à 39-ish, genre. Donc, c'est vraiment une grande gamme. Une autre question? Non? Est-ce qu'il y a quelque chose en ligne? Madame.
I noticed in one of the slides that you presented that phase two evaluation was based on the MMIs and the CV, whereas I thought I had read that the phase two evaluation is based on the MMIs and on the grades, 80% MMIs and 20% grades in the science courses. Has there been a change?
No, we actually have to update our website for the MedP program in particular. The 80%, 20% breakdown for the final selection is with respect to the university degree holding pool. So all of the students who will be interviewed in February will be evaluated at the final stage 80% on their MMI performance and 20% on their basic sciences. For the CDEP students who are applying into the MedP program, it's going to be 100% MMI for the final selection. And the CV, the full CV, will only be evaluated for those students who are invited to interview. We have to update that information on our website. I'm sorry about that.
Pour répondre en français, ça dit sur notre site web 80% pour les entrevues, 20% pour la note en sciences. Ceci n'applique que pour les postulants de niveau universitaire, les étudiants de niveau collégial, c'est 100% les entrevues. Attends, je vais répondre à une question qui nous vient du web. C'était quoi la question?
Les trois facultés francophones ont encore leur journée d'entrevue au mois de mai. Est-ce que les vôtres se déroulent encore en mars?
Alors la question, les trois facultés francophones ont leur entrevue rapportée en raison de certaines choses qui se sont passées. Est-ce que McGill fait suite? Non. Nos entrevues sont toujours les 15 et 16 avril. Our interviews later? No, our interviews are still scheduled for the 15 and 16 of April. Madame.
Excuse-moi, pardon. Mais il faut juste noter que à cause du délai, pour nos collègues qui font le MEMFI, les offres d'admission seront reportées au 31 mai. On a prévu au début 29. Du processus mi-mai, comme d'habitude, mais à cause du délai pour les MEMFI, nous, comme good citizens, we push offers out all at the same time, all four faculties, so that everybody has a fair chance to consider their offers. We will be sending our offers of admission out, even though we haven't delayed our MMIs at all, and we will actually be ready to offer in the early part of May, probably. We will not send out offers of admission until the 31st of May. So there is an impact for us, but it's only at the upper stage.
Oui, madame. Bonsoir.
Bonsoir.
En fait, je me demandais, pour quelqu'un qui postulerait cette année, mais déciderait d'aller dans un autre programme, par exemple, est-ce qu'il est possible de postuler plusieurs fois au programme de médecine, ou c'est une seule fois qu'on peut tenter notre chance?
C'est une seule fois que nous pouvons postuler pour le programme de médecine préparatoire. Une fois que vous avez votre diplôme universitaire, vous pouvez postuler à plusieurs reprises, s'il le faut. To repeat that in English, can you apply to MedP, or how many times can you apply? MedP, you only have one chance, and that is the chance immediately after you graduate from CEGEP. And in terms of once you have your university diploma or degree, you can apply several times after that, if it should be needed that way. Oui, monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est pas moi le candidat, mais je parle pour une autre personne. Je n'ai pas la fraîcheur des CGPM, mais j'essaie de comprendre. J'ai deux questions, en fait.
D'accord.
Le processus de sélection, il se déroule en deux temps. Sélection sur dossier, puis interview.
Okay. Oui.
Pour passer de l'un à l'autre, il faut avoir réussi la sélection sur dossier, je suppose.
Oui. La phase 1 de la processus de sélection, c'est pour savoir qui va venir pour les entrevues, qui est phase 2.
Okay. Deuxième question, c'est par rapport à la cote R. Il y a des éléments de réponse qui ont été fournis. Je voulais savoir, c'est quoi la ligne rouge inférieure? Vous avez mentionné 38, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un verbe bas. À un moment donné, dites, on ne regarde plus. J'essaie de comprendre.
37,998. Voilà. Donc, c'est pas ça.
Mais on a... Votre expérience, là, jusqu'où vous êtes allé pour accepter des cotes R au plus bas?
Alors, on vous dit que 33,5 est supérieur, vous avez de bonnes chances. En dessous de ce chiffre, vous avez encore des chances. En dessous de 32, à ce point-là, ça devient minime. En effet, si vous êtes en dessous du cote, si vous avez un cote de rendement en dessous de 32, on regardera votre dossier seulement si vous avez des circonstances atténuantes qui s'ajoutent à votre dossier. Petite parenthèse à ce sujet, les étudiants qui font sport-études, à ce point-ci, n'oubliez pas de cocher circonstances atténuantes parce que ça aussi, ça fait partie de ça. Alors, sport-études, if you are part of that group, ensure that you do check off that you are doing, that you have extenuating circumstances because those two are very much linked.
Merci.
I just want to say something about extenuating circumstances so that you're clear on how we actually look at these claims that you're making. Basically, what we ask you to do is use the extenuating circumstances. Sport-études is one example, but if something happened in your life that is beyond your control, that you can justify and demonstrate and prove that has had an impact on your academic performance in a discrete period of time. We are not going to take an extenuating circumstance as an explanation of four sessions of study, but if there was a blip, something anomalous that does not demonstrate your academic ability and that was directly related to something that happened that you can document to us, that is what we consider to be a justifiable reason to look differently at your academic record. So what we will do is we actually look at all of the extenuating circumstance documents that are submitted to us at the stage of pre-screen before we decide who comes for an interview so that we make sure that our academic assessment takes into consideration any of these circumstances that might have had an impact on your academic performance and that are credible and demonstrated. Once again, be concise. You don't need to give the whole life story. We just need very clear information. This happened. This is the date. This was the effect. Here's the doctor's note. Thank you very much. And we will take it into consideration. Je pense que je suis capable, je pense. pour les circonstances atténuantes, ça serait important pour vous de regarder les critères pour ce processus qui sont sur notre site web. C'est vraiment une question de démontrer avec un genre de preuve, la documentation à l'appui, une note de médecin, une note de conseiller académique, de quoi que ce soit, pour nous indiquer qu'il y avait quelque chose qui s'est arrivé, qui a eu un impact direct sur votre performance académique et que vous voulez que nous considérons dans notre évaluation de votre dossier académique. C'est beau?
Oui, monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir.
En fait, j'ai deux petites mini-questions, puis une qui est un petit peu plus grosse.
Okay.
La première, c'est...
mini-question multiple, ouais. C'est ça.
Je pense que ça, on va passer à madame, et après ça, je pense qu'on est terminé pour les questions.
D'accord.
OK, parfait. Donc, la première question, c'est que moi, je suis résident permanent. Je n'ai pas encore eu ma citoyenneté canadienne. Donc, est-ce que je dois envoyer quelque chose à l'Université McGill pour justement prouver que je suis résident permanent?
Le ministère a probablement déjà votre dossier en termes de résidence permanente. Et résidence permanente, citoyenneté canadienne, c'est équivalent. Alors, vous êtes admissible et on aura ces informations-là par le biais du ministère.
OK. C'est une bonne nouvelle. La deuxième question, c'est justement, en fait, j'ai fait ici secondaire 4, secondaire 5, qui est le reste du cégep. Mmh. Est-ce que je dois passer quand même un examen pour prouver que j'ai des facultés en anglais ou...
Non. Non, l'anglais... Ah, ça, c'est une très bonne question qui me fait suite à un bon point que je voulais apporter. Vous n'avez pas besoin de faire preuve de l'anglais. Peut-être vous avez pas, qu'on n'a pas mentionné ceci spécifiquement, mais vous avez le droit de vraiment envoyer tous vos documents et même faire vos entrevues, si vous êtes convoqué pour des entrevues, en français. On n'est pas là pour évaluer vos habiletés en français ou en anglais. On veut vraiment juste vous connaître, but you do have to keep in mind that McGill is an English language institution and the language of instruction will be in English. So all of the courses and all of the materials and all of the course packs will be in English. Mais vous aurez des camarades de classe qui seront francophones ou même parmi de 150 plus pays, alors c'est quelque chose à considérer. Monsieur.
Puis la petite dernière, mais j'en ai une qui est venue juste comme ça. C'est que dans les faits saillants, en fait, surtout dans l'exposé personnel, en fait, là où j'ai un doute, c'est au niveau de la forme. Est-ce qu'il faut écrire comme une lettre de motivation, donc elle est cordialement « veuillez agréer monsieur » ou je sais pas quoi, ou est-ce que c'est vraiment une structure assez libre, donc il ne faut pas vraiment faire une intro, développement, donc conclusion, puis des trucs comme ça.
Vous parlez juste du fait, en effet, le fait saillant ou l'exposé personnel, c'est pas vraiment une lettre, cher monsieur, daté, Montréal, ta-da-da-da, c'est pas comme une lettre spécifique, c'est vraiment un texte, un récit que vous voulez mettre, veuillez cordialement, sincèrement, ça c'est à vous, mais ça n'a pas besoin d'avoir un format de lettre officielle.
Le petit truc qui m'est venu, c'est en fait, est-ce que dans notre CV, on a le droit de mettre quelque chose qui est... en rapport avec McGill.
Est-ce que vous avez le droit? Oui. Mais attends, répétez votre question.
En fait, est-ce que dans le CV, quelque chose qui est en rapport avec McGill, en fait, puis qui fait que peut-être tu vas être distingué, est-ce que tu peux le mettre? Je ne donnerai pas les détails, mais...
Est-ce que si ça vous distingue, c'est à vous de le mettre. C'est le fait que ça fait partie de McGill ou que ça fait partie d'une autre université, ça n'a pas rapport.
Okay,
on aime les étudiants de l'Université de Montréal autant que McGill, donc.
OK, merci beaucoup.
Madame.
J'avais deux questions. En fait, la première question, c'est pour savoir, en fait, après les multi-entretiens...
Mini-entrevue,
oui.
D'accord.
Est-ce qu'il y a une convocation, en fait, sur le CV, en fait, où on parle de soi-même, ou est-ce qu'il y a des questions à un moment donné sur soi-même où on n'en parle plus du tout? Enfin, où c'est uniquement à l'écrit, l'interrogation sur la personne, sur ce qu'on est, ou des développements. Est-ce qu'il y a un moment donné où on peut demander à l'oral en fait, des éléments en fait, du CV? Enfin, je ne sais pas.
Moi, je préfère rester un peu vague là-dessus. C'est peut-être connu que dans le passé, on a eu des scénarios où on a regardé le CV avec le candidat. C'est possible que ça peut arriver encore, mais on ne confirme où on ne lit rien.
D'accord, mais il n'y a pas en fait une convocation. Enfin, il y a juste en fait les multiples.
Vous êtes convoqué pour les mini-entrevues multiples.
Pour les mini-entrevues. Il n'y a pas une convocation ensuite, en fait. Ça se termine là, en fait.
Ça se termine là.
D'accord, c'était. D'accord. Et alors, je voulais savoir aussi, on peut postuler, c'est à partir de septembre, c'est ça?
Oui.
Jusque mars. Alors, je voulais savoir par rapport à la cotère, justement, comment est-ce que c'est pris en compte? Parce que si on postule en fait en septembre, il n'y a que deux semestres de cotère qui sont connus. Alors, si c'est après janvier, il y a trois semestres. Et comment est pris en compte, en fait, le quatrième semestre de quotaire, en fait, à ce moment-là?
Bien, c'est que vous pouvez, si on parle pour l'année prochaine, oui. Et pas nécessairement pour cette année, oui, le processus, le cycle ouvre le 1er septembre. Vous pouvez faire étape numéro un dès le 1er septembre. Mais ça vous donne pas un avantage ou ça veut pas dire qu'on va commencer la révision de votre dossier dès cette date-là. En effet, on ne révise les dossiers qu'après la fin de cette période, dont après le 1er mars, quand tous les documents sont reçus. Votre troisième session sera, pour la plupart, sera sur les dossiers. Qu'est-ce qui arriverait? C'est que si on vous donne une offre, l'offre sera contingent sur, conditionnelle, merci, sur l'aspect de votre quatrième session ou de votre dernière session.
Donc en fait, ce sera pris en compte, d'accord,
à la
condition
fin.
En fait.
Oui. Mais
vous êtes tenu à garder le même standard de performance dans la quatrième, et si on voit vraiment une grande baisse, on va vous convoquer peut-être pour une petite conversation pour voir qu'est-ce qui s'est passé, mais parce qu'il faut vraiment démontrer que vous avez une consistance dans votre dossier académique. Mais il faut prendre la décision en avril, alors on est un peu prise.
En fait, si on envoyait le dossier en novembre, vous auriez de toute façon, au moment où vous allez considérer la chose, 3 semestres en fait, de quotaire, puisque vous l'avez par le
par le ministère. Oui.
Dans tous les cas, donc peu...
Oui, et pour dans les cas spécifiques, comme qu'est-ce qui se passe présentement avec les semestres qui sont peut-être un petit peu plus retardés ou ainsi de suite, les mêmes conditions s'appliquent. Si on a juste 2 sessions ou 2 sessions et demie ou quoi que ce soit, on s'attend que les dernières sessions sont au même niveau et que votre condition d'admission est basée et est conditionnelle sur ceci, que c'est à peu près à la même hauteur.
D'accord.
Voilà. Alors, mesdames, messieurs, oui. Pour ceux et celles qui ont posé leurs questions sur notre site web, on apprécie ça. Vous pouvez continuer tout de suite. On a cette page sur notre système. On va répondre aux questions parce que beaucoup d'entre vous, on a remarqué, vous avez inclus votre adresse courriel. Alors, c'est apprécié. On va prendre le temps pour répondre à ces questions-là. Tout le monde autre, nous avons notre carte d'affaires ici ou même notre information sur le site web. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas que la médecine, c'est beaucoup de ça et beaucoup de ça. Salut.